Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue sur nos ondes. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet lié à l'histoire de France. Nous allons parler héraldique avec un grand spécialiste qui est aujourd'hui avec nous dans le studio. Je salue la présence de Hervé Pinoteau, qui est un grand héraldiste et qui va nous parler aujourd'hui des armes de France. Les auditeurs ont eu déjà le plaisir de découvrir sa grande science à travers des émissions que nous avons enregistrées avec lui, que vous pouvez redécouvrir sur les ondes, ou plutôt sur le site internet du Centre international du vitrail. Bonjour Monsieur Pinoteau, le sujet les armes de France vous passionne parce que vous êtes secrétaire personnel.
Je suis avant tout un historien, hein, et en 1954 j'ai commencé à faire des livres sur l'héraldique des Capétiens. 54, et j'ai été fasciné par le problème de l'origine des armes de France, c'est-à-dire, en termes techniques, d'azur semé de fleurs de lys d'or. Voilà. Il est évident que c'est une composition extraordinaire, qui est simple, mais qui est fascinante, ne serait-ce que parce que c'est un semé, et je dois dire qu'il est vraiment... pas omniprésent, mais très présent dans la cathédrale de Chartres. Voilà.
Alors, veuillez expliquer aux auditeurs qui ne connaissent peut-être pas toute la terminologie très spécialisée, qu'est-ce qu'un semé ?
C'est un nombre infini d'objets qui ont sur une étoffe. Ça a été découpé, c'est forcément une étoffe à l'origine, et ça a été découpé pour mettre d'abord sur, par exemple, sur un étendard. À mon avis, c'est la première de toutes les choses, c'est sur un étendard. Et après, c'est passé sur l'écu et c'est passé sur tout l'équipement du roi. Et en particulier, quand c'était sur l'étendard, en réalité, ça a dû être déjà sur les vêtements de cérémonie du roi Louis VII au moment où on a créé l'héraldique. Voilà, en plein XIIe siècle, et ça s'explique. Si quand j'ai été dans la plus grande indécision en 1954 et la suite, quand j'ai pensé que la fleur de lys, qu'on disait que c'était un insigne du pouvoir parce qu'on en voyait sur les couronnes et sur les sceptres, on disait aussi que c'était un signe marial, parce que la Sainte Vierge était souvent accompagnée de fleurs de lys, mais manque de chance, parce que tout s'est écroulé en moi, vers 1954-55, je suis tombé, si je puis dire, devant la charse de Saint-Orin d'Évreux, où, vers 1200, ce qui est de 1250 environ, et où on voit un ange qui touche le ventre d'une femme qui est en train de dormir, avec un sceptre qui est terminé par une fleur de lys. Il s'agit de toute la légende de la naissance de Saint-Orin, premier évêque d'Évreux, où la mère de Saint-Orin, qui s'appelait Eutychie, et avoit un ange qui dit, le texte latin dit texto, qui lui touche l'utérus avec un sceptre ne sentant pas moins bien que les lys. Ça veut dire au fond que c'est aussi un emblème de fécondité, n'est-ce pas ? Alors, tout le mélange, pour moi, m'a interpellé pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, par le plus grand pape, s'il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas, il y a la providence, et puis évidemment quand on patrouille dans ce genre de choses, on tombe finalement sur le texte. Alors le texte, il faut le déchiffrer, enfin il faut l'assimiler, c'est du Saint Bernard. Saint Bernard, 86 sermons sur le Cantique des Cantiques, vivant à l'époque de Louis VII, qui est un roi très pieux, et qui explique toute la chose, en disant que, d'après le Cantique des Cantiques, quand on le déchiffre, c'est un poème hébraïque, s'il est dans la Bible, l'Ancien Testament, mais quand, en réalité, on est chrétien, le Christ est un lys, la Vierge est un lys, Sainte Marie-Madeleine est un lys, et tous les saints sont des lys, c'est-à-dire que le ciel est peuplé de lys. Un ciel de lys. Autrement dit, un semé de fleurs de lys est tout simplement l'évocation du ciel des élus. Très intéressant. Parce que jusqu'ici, on peut dire depuis Charles le Chauve, le roi de France portait une tunique qui était semée d'étoiles. Et chez les rois entre parenthèses allemands, c'est-à-dire les empereurs romains, il y avait des vêtements qui pouvaient être semés de d'étoiles et de constellations, comme sur la la chape de Saint Henri II qui se trouve au trésor de Bamberg et qui est au début du XIe siècle. Donc ça veut dire qu'il y a eu la transformation, il y a eu une transformation de l'univers matériel, le soleil, la lune et les étoiles, qui étaient donc sur les vêtements des rois depuis Charles le Chauve, en un univers spirituel, un cosmos spirituel. Et ça, c'est du Saint-Bernard et c'est l'application par Louis VII. Voilà, c'est donc des armoiries absolument extraordinaires. C'est pour ça que j'ai publié depuis pas mal de choses à ce sujet-là. Mais la grande explosion de ces armoiries, aussi bizarre qu'elle puisse paraître, ça n'est pas sur les sceaux, parce que les savants sortis en particulier de l'école des Chartes sont très attachés aux sceaux, qui sont des témoins évidemment irrécusables. Mais il n'y a pas que les sceaux, il y a tout le reste. Et ce reste est absolument extraordinaire. Maintenant, il est évident qu'il faut quand même parler des vitraux de Chartres.
Oui, peut-être une question de profane. Pourquoi la fleur de lys ne ressemble pas vraiment à la fleur de lys telle que nous la connaissons et plus à d'autres plantes?
Parce qu'elle a été déformée.
L'iris, comme l'iris.
Elle a été déformée. Quand vous voyez, par exemple, des fresques du XIIe siècle, au moins à deux endroits, en Italie et en France, on s'aperçoit qu'il y a des couronnes de la Vierge, en particulier, d'un roi ou d'une reine, qui sont avec des lys blancs. Donc, quand ça a été matérialisé en haut des insignes du pouvoir, on a progressivement fait, quelque chose de beaucoup plus stylisé, et progressivement, c'est arrivé à ce qu'on appelle maintenant la fleur de lys. Fleur de lys, d'ailleurs, c'est assez extraordinaire. Fleur de lys et fleur de rose, ce sont des termes qui apparaissent vers 1162 dans des poèmes, dans Marie de France et des poèmes de Chrétien de Troyes, pour autant que je m'en souvienne. Les termes, bien entendu, à ce moment-là, sont consacrés par la littérature française. Voilà.
Donc la fleur de lys telle qu'elle est utilisée n'a rien à voir avec l'iris qui matériellement ressemble plus.
Il n'y a qu'un sceptre qui se trouve à la Hofburg de Vienne, qui est assez court et qui est terminé par un iris. C'est tout. Enfin, vous savez, les sceptres peuvent être terminés par des oiseaux, c'est le Saint-Esprit, visiblement, et ils peuvent être terminés aussi par une main d'ivoire, c'est la soi-disant main de justice. Il est certain qu'un sceptre peut être terminé par beaucoup de choses. En haut du sceptre, de tout sceptre, c'est l'autorité suprême, c'est l'autorité céleste, et c'est par le canal du sceptre que les grâces bénéfiques et fécondes tombent sur le royaume. Voilà, c'est l'axe du royaume. Enfin, pour le haut sceptre des rois de France en particulier.
Voilà, donc on va peut-être faire une petite pause musicale. Francia Gaudia de Venance Fortunate, interprétée par Venance Fortunate. Et après, vous allez effectivement nous parler des vitraux de la cathédrale de Chartres.
C'est indispensable.
Chers auditeurs, nous sommes avec Hervé Pinuto qui nous parlait de la fleur de lys et l'époque à laquelle les rois de France vont choisir cette belle fleur comme leur emblème. Maintenant, Monsieur Pinuto va nous parler peut-être des vitraux de la cathédrale de Chartres, oui, qui reprennent plusieurs fois ce motif.
Oui, ça c'est bien certain. Donc le roi Louis VII invente cette composition des fleurs. Extraordinaire. C'est le seul État qui a des fleurs. Et entre 1137 et 1147, entre 1137 et 1147, c'est visible, ça se démontre quand même. Et dans cette cathédrale, donc bien après, il y a effectivement ces armes, cette composition fascinante qui se trouve dans le chœur, bien entendu. Quand on voit le prince Louis, c'est-à-dire le futur Louis VIII, le père de Saint-Louis, le fils de Philippe Auguste, il est à cheval avec tout son équipement, l'écu, la bannière, c'est aux armes de France. Le terme « âme de France » arrive à l'extrême fin du XIIIe siècle. Quand le maréchal du roi devient maréchal de France, la maison du roi devient la maison de France, etc. Et à ce moment-là, dans ce vitrail, on voit donc que les fleurs de lys sont maîtresses. Autre endroit, dans le transept nord, on voit les armoiries, enfin les armes de Philippe Hurepel, qui est le frère cadet de Louis VIII. C'est un deuxième mariage qui n'est d'ailleurs très bien vu par l'Église. C'est le deuxième mariage de Philippe Auguste. C'est Philippe Hurepel qui est le comte de Boulogne et qui brise, c'est-à-dire qui montre qu'il est quand même un cadet. Il brise, comme on dit, avec un lambel rouge de gueule. Voilà, c'est la première brisure connue des armes de France.
Alors un lambel ressemble un peu à une échelle, une moitié d'échelle.
Oui, c'est un espèce de râteau, voilà, qui est rouge, voilà. Et donc ça, ce sont véritablement les premières apparitions avec, bien entendu, cet ensemble absolument extraordinaire et triomphal qui est dans le transept sud la grande série des vitraux qui est triomphal avec la maison de France qui est assimilée, si l'on peut dire, à la maison à la tribu de Juda. Enfin, il y a les rois de Juda. Et il ne faut pas oublier la chose suivante, c'est qu'en 1239, donc bien après la pose de ces vitraux, le pape Grégoire IX, dans la bulle Dei Filius, a quand même déclaré à Saint-Louis et à sa mère Blanche qu'il fallait quand même qu'il s'agite un peu contre Frédéric II, l'empereur des Romains, c'est-à-dire l'Allemand qui était un peu fou sur les bords, qu'il fallait qu'il s'agite un petit peu, et en disant que le royaume de France, dans l'Église qui est le Nouvel Israël, dans la Nouvelle Alliance, tient le rôle de la tribu de Juda dans l'Ancienne Alliance. Donc il y a un parallèle entre les rois de France et les rois de Juda. Donc les rois de Juda sont très présents et en dessous, il y a effectivement des personnages qui sont uniquement de l'Ancien Testament, avec la Sainte Vierge au milieu qui fait la jonction entre les deux, bien sûr. Et il y a effectivement, en plus, là, l'écu de France lui-même, qui est central et tout en bas.
Sous Sainte-Anne.
Oui, exactement. Cet ensemble tout à fait fleurdelisé qui fait la jonction entre les deux traditions est absolument extraordinaire pour notre idéologie royale et c'est l'idéologie de la France d'alors qui a été balayée qui a failli être balayée complètement par les protestants et qui a été balayée finalement par la révolution française de 1789.
Voilà. Alors dans le transept nord, on voit à côté des armes de France aussi les armes des rois de Castille.
Oui, il y a le roi de Castille. Mais évidemment, étant donné que la mère de Saint, enfin la femme, comment dirais-je, de la
Louis
femme
VIII.
De la femme de Louis de Louis VIII, de Louis VIII était Blanche de Castille, on voit comment dirais-je le roi de Castille qui est là avec ses armoiries, là le château d'or sur en champ de gueule, c'est-à-dire jaune sur rouge, sur l'écu et sur sa bannière, voilà. Et ça, je dois dire aussi, ça c'est important parce que lui c'est un roi parce que c'est pas un prince héritier comme le futur Louis VIII et il a un grand étendard à queue d'ailleurs, tandis que le prince Louis a simplement une bannière carrée, enfin rectangulaire si vous voulez.
Là, vous parlez des petites roses dans le cœur. Où ils sont représentés
dans les petites roses, les roses du cœur, oui, qui sont très importantes parce que c'est une liste de gens qui ont participé à la croisade contre les Albigeois en 1219. En gros, c'est ça, voilà. Il y a des roses qui ont disparu, mais en gros, tout ce qui est sauvé, c'est déjà pas si mal.
Donc, à votre avis, on peut dater ces petites roses dans la partie haute grâce à la représentation héraldique, ou est-ce qu'il est difficile de dater un vitrail à partir d'une représentation héraldique seule? Sachant que la forme de la fleur de lys change un peu au cours.
Non,
de
pas tellement. À cette époque-là, non. Non, 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 ça, c'est à peu près réglé. Elle changera un petit peu par la suite. Mais enfin, elle changera vraiment. Vraiment, quand on voit certaines choses dans la cathédrale, oui, effectivement, elle s'élancera un tout petit peu plus, elle s'empâtera, etc. Il y a beaucoup de choses. Elle arrive jusqu'à nos jours après beaucoup de transformations, bien entendu. Mais dans la cathédrale, dans le chœur en particulier, et dans les transepts, la fleur de lys est tout à fait belle, elle est élégante et on ne peut pas se plaindre. Voilà.
Vous avez sans doute jeté un coup d'œil sur les clés de voûte, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Non,
mais l'héraldique est importante sujet, pour...
Oui. Oui.
La présence des armes de Castille étonne quand même, parce qu'il me semble que Blanche de Castille avait des problèmes pour récupérer sa dot.
Oui, bien sûr. Oui, ça arrive souvent ça arrive même sous Louis XIV, hein, parce que la reine Marie-Thérèse d'Autriche, enfin l'infante d'Espagne, effectivement n'a jamais pu récupérer toute sa dot, et d'ailleurs ça a entraîné une bonne guerre entre la France et l'Espagne, bien sûr. La dévolution des biens de la... Enfin, c'est toute une histoire. Il y a des moments qui sont pénibles dans notre histoire, pour des questions de dot.
Et vous vouliez peut-être évoquer encore un autre vitrail du maréchal Jean Clément, ou est-ce que...
Ah, ben ça, il n'est pas... C'est un vitrail qui n'est absolument pas fleur de lys. C'est un vitrail qui est à la gloire du gonfanon de Saint-Denis, puisque Saint-Denis transmet le gonfanon. C'est un étendard à queue qui vient d'ailleurs de très loin, et même de l'Asie, à travers les armées romaines, cet étendard qui est rouge, dont je vais en reparler tout à l'heure, ultérieurement. Et il est certain que c'est encore un des grands points intéressants de notre histoire, parce que c'est l'apparition justement graphique de cet insigne extraordinaire fut si important dans les combats que nous eûmes contre les infidèles, d'abord en particulier à la deuxième croisade, et puis jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans. Voilà.
Alors en face, vous vouliez encore évoquer un autre vitrail avec des fleurs de lys. Sinon, on a en face du transept nord la rose sud, en dessous de laquelle on a le cousin du futur roi Saint-Louis, Pierre de Dreux,
oui.
Pierre Beauclerc.
Alors là, c'est très intéressant. Il n'y a pas de fleurs de lys, parce que les branches issues des cousins du roi de France Louis VII, ces armoiries... En général, non pas de fleurs de lys, parce qu'il n'y a que les descendants de Louis VII qui ont des fleurs de lys, ce qui a posé beaucoup de problèmes par la suite des temps à certaines familles. Elles ont pris en général des compositions comme base l'azur et l'or, qui sont les couleurs qui viennent peut-être évidemment des vêtements de sacre qui étaient bleus avec des étoiles d'or, et on a des traces de ces vêtements là qui existaient en particulier à Saint-Denis encore au début du XIVe siècle, puisqu'un Italien en a parlé. Et alors, là, un des membres de cette famille Villani, un Florentin, qui disait beaucoup de choses. Et finalement, ces armoiries, comme les armoiries des Dreux, sont d'azur et d'or, échiquetées d'or et d'azur, avec une bordure de gueule, une bordure rouge. Les gens se sont demandé, étant donné que c'est visiblement une brisure, cette bordure rouge, pourquoi il y avait cette bordure rouge. Le duc de Bourgogne, qui est aussi d'une branche cadette, porte un bandeau d'or et d'azur avec une bordure rouge. Étant donné qu'ils ont des compositions originales, pourquoi mettre cette bordure rouge? Et pour moi, c'est très important, ça veut dire que ce sont des armoiries importantes. C'est comme quand à l'heure actuelle vous entourez sur un bout de papier quelque chose qui est intéressant et vous flanquez un grand coup d'encre rouge tout autour pour dire que c'est important et qu'il vous y fera attention. Voilà.
Oh.
Nous étions en train de parler avec Hervé Pinotto, Hervé Pinotto nous exposait les armes de Pierre de Dreux, qui est le donateur de l'ensemble des verrières dans la cathédrale de Chartres, qui se trouve dans le transept sud. Et Hervé Pinotto nous disait l'importance du pourtour rouge de ces armoiries.
Tout à fait. Mais c'est donc très important, c'est une idée à moi, une idée tout à fait personnelle, mais je la revendique. Alors, la question, parce que je crois que c'est une idée originale et d'intérêt. La question est, c'est que les armoiries que l'on voit dans la cathédrale de Chartres sont donc les armes de Dreux brisées parce que c'est un cadet, il n'est pas comte de Dreux, c'est un cadet, Pierre de Dreux, mais en plus... il est un cadet de cadets, puisqu'il est cadet chez les Dreux. Et alors, il surbrise en mettant ce qu'on appelle un franc-canton. Et souvent, un franc-canton, c'est un quart de l'écu qui est supérieur, qui est à gauche, c'est-à-dire dextre à la bonne position. Et il est spécial, ce franc-canton, il est d'hermine. Ça se voit dans plusieurs familles, chez des cadets, on prend un franc-canton d'hermine. Et on se dit, tiens, c'est curieux, parce que ce monsieur qui est un comte de Bretagne, il a pris un franc-canton d'hermine. Alors, il y a des gens, des Bretons, qui au XIXe siècle vont dire, ah oui, mais c'était les armoiries de la Bretagne, les armes de la Bretagne. Eh bien ça, la Bretagne n'avait absolument aucune armoirie avant les Dreux. On saurait depuis longtemps, ne serait-ce que par des pièces de monnaie ou des sceaux, etc. Il n'y en avait pas. Donc c'est un signe de cadet à l'intérieur de cadet qui sont les Dreux. Par la suite, ça doit être le petit-fils de ce Pierre de Dreux, Pierre Mauclerc, mauvais clair.
Mais il a fait des études de théologie, puis finalement, il s'est décidé à devenir guerrier pour intégrer
c'était un grand guerrier,
des trois fonctions de la société médiévale.
Oui, c'était un grand guerrier, très curieux, très courageux, comme d'autres membres de la famille des Dreux. C'était des gens, d'abord, qui étaient très portés sur les beaux-arts et qui étaient en plus très courageux. Et il y a un petit-fils, si j'ai bonne mémoire, si vous le verriez, petit-fils, c'était Jean II, je crois, duc de Bretagne, parce qu'il dit la Bretagne était considéré finalement comme duché au début du XIVe siècle. Il a considéré que c'était vraiment ennuyeux de faire partie, d'avoir l'air d'être un cadet, alors qu'il était vraiment, il se peut penser, un très indépendant en Bretagne. Et en 1316, il a envahi tout son écu avec l'hermine du franc-canton. Voilà. Du franc-quartier même, si l'on peut dire. Donc, les armes des ducs de Bretagne sont devenues d'hermine plein, P-L-A-I-N, c'est-à-dire tout l'écu, il est plein, mais on dit P-L-A-I-N, planos. Voilà. Et donc, c'est de là que viennent les armoiries de la Bretagne.
Et là, on l'appellerait pas un semis de
Non, parce qu'on dit d'hermine, c'est une fourrure. Alors, donc, ça va.
Oui, alors il y a deux fourrures en héraldique.
Ah, il y a le vert, le V-A-I-R, même le contre-vert, et puis il y a même la contre-hermine, quand on a le culot, de mettre des armoiries de sable, c'est-à-dire noires, avec des queues d'hermine qui sont blanches, d'argent. Mais ça, c'est rarissime. Enfin, de toute façon, le vert, c'est un peu spécial, c'est une alternance sous forme de clochette de fourrures bleues et de fourrures blanches à travers qu'on a pris sur un petit écureuil, si j'ai bonne mémoire. Et il y a beaucoup de vêtements qui sont doublés de vert, V-A-I-R, voilà.
Mais vêtements réservés à l'aristocratie et aux chanoines.
Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Voilà. Mais souvent, on voit des rois de France avec du verre, V-A-I-R, et non pas avec de l'hermine.
Et aujourd'hui encore, les juges de la Cour de cassation portent...
Ah, mais oui, exactement. On voit des vêtements comme ça. Il est vrai que les juges au plus haut sommet, c'est d'ailleurs la Cour de cassation, c'est ce qu'il y a de plus important. Il est évident qu'ils ont beaucoup de... Là, en dehors du rouge, bien entendu, qui d'ailleurs était arboré souvent par les rois de France comme vêtements. Il y a des rois qui ont porté le rouge au Moyen-Âge. Et donc, ils représentent le pouvoir royal, le pouvoir suprême. Et ils ont du rouge et ils peuvent avoir du vert. C'est tout à fait normal.
Il faudrait presque parler du bleu des rois de France. Du moment que nous parlons du rouge qui est resté la couleur royale, on déroule aujourd'hui encore un tapis rouge et pas un tapis bleu, alors qu'on parle du bleu royal.
Du bleu royal, du bleu de Chartres. Qui a été d'ailleurs, sous la Révolution, appelé le bleu national. Voilà. Parce que le bleu... Mais la France est très restée attachée au bleu. J'en parle plus souvent. Et même, la France a été attachée, aussi bien que ça puisse paraître à partir du XIVe siècle, etc., à la triade bleu-blanc-rouge. Les rois de France, la livrée des rois de France à partir des derniers Valois, et tous les Bourbons, c'était bleu-blanc-rouge. Et dans l'armée, il y avait justement l'exploitation, au point de vue des étendards de cavalerie en particulier, la récupération du bleu-blanc-rouge sous une certaine façon. Et il est très curieux de voir qu'il y a des poèmes que j'ai publiés au XVIIe siècle, qui chante la gloire du bleu, blanc, rouge, en disant qu'il y a des gens qui sont quasiment amoureux de cette triade-là. Ça veut dire que finalement, sous la Révolution, on s'en est emparé à la suite de toute une série d'histoires qui sont arrivées en 1789 et la suite. Mais c'était absolument une triade qui était familière aux Français. Voilà.
Et qui reprend l'idée de ces trois fonctions de la société médiévale.
Dans un certain sens.
Le blanc, le pouvoir spirituel, les oratores, ceux qui prient.
Oui, monsieur.
Le rouge, les bellatores, qui combattent.
Oui, ça c'était...
Et bleu, reprenons le noir, la fonction de ceux qui travaillent.
Je vois que vous avez...
Les laboratores, oui.
Vous avez du Dumézil en tête, bien sûr. Voilà, non mais c'est vrai, mais les triades de couleurs sont très importantes, mais en réalité, à travers les siècles, il y a une deuxième triade qui est arrivée, qui est encore importante, c'est le vert blanc rouge. Et le vert blanc rouge est passé, c'est dans les romans de la quête du Graal qu'on les voit apparaître, et puis après dans Dante, dans Saint Jean de la Croix, et ça symbolise la foi, l'espérance et la charité. Et vers 1750, le vert blanc rouge est dans le rituel des francs-maçons Rose Croix. Toujours la foi, l'espérance et la charité. Moi, j'ai à la maison un rituel autographe de cette époque-là. Et quand les Italiens, c'est-à-dire entre guillemets, vers 1795, par là, 96 et la suite, ont commencé à faire des révolutions. La République Cispadane, qui est devenue la République Cisalpine, qui est devenue la République Italienne, qui est devenue le Royaume d'Italie de Napoléon Ier, ils ont vécu avec la triade vert-blanc-rouge qui existe toujours chez eux. Triade maçonnique, évidemment, mais avait, en plus, c'était une imitation du drapeau français, et avec, évidemment, pour eux, la possibilité de prendre du bleu, étant donné que le bleu, d'ailleurs, était en plus un des emblèmes, une des couleurs des rois de Sardaigne, qui n'était pas pour eux à cette époque-là.
Donc, voilà. Retenons à la fin de notre émission, qui arrive malheureusement déjà à sa fin, que le bleu-blanc-rouge est très ancien et antérieur à la Révolution.
Si bien entendu.
Votre propos. Donc, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, rejoignez-nous dans une quinzaine de jours pour une nouvelle émission avec Hervé Pinotto sur l'héraldique. Et Hervé Pinotto va nous exposer tout ce qu'il sait sur le vitrail de la vie de Charlemagne qui se trouve dans la cathédrale de Chartres. À très bientôt. Merci de votre attention et au revoir.